La reconnaissance au Sauveur. Amen. Au salut. Nous allons avoir notre méditation autour d'un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, et du verset 11 au verset 19. Du verset 11 au verset 19. Je lis. Luc 17, verset 11, Luc 17, verset 11 à 19. La reconnaissance au Sauveur amène au salut. Je lis. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée comme il entrait dans un village. Dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, ta foi t'a sauvé. La reconnaissance au Sauveur amène au salut. Jésus-Christ passait entre la Samarie et la Galilée. La Judée est au sud de la Samarie et la Galilée au nord de la Samarie. Mais il est admis que les autres tribus d'Israël étaient plus en Samarie et étaient considérées en ce moment comme des étrangers, des gens qui n'étaient plus acceptés par Dieu, et vu d'abord que leur voix s'était tournée vers d'autres dieux et avait des autels partout. Ils allaient sur la montagne. Ils n'étaient pas... Ces gens n'étaient plus considérés vraiment comme des gens, des enfants d'Israël appartenant à Dieu. D'ailleurs, il y avait tout un mélange parce que c'était un peuple déporté, le peuple d'Israël, les dix tribus qui étaient, disons, les neuf plus ceux en Judée étaient Judas, Benjamin, et les Lévites. Donc, il y a une partie des Lévites, de Benjamin qui était aussi avec les Samaritains, qui n'étaient plus appelés Israélites. Israël, disons, avait disparu avec eux, les Juifs et les Samaritains. Les Juifs s'étaient retrouvés plus aussi en Galilée. Et les Samaritains étaient considérés au milieu comme des étrangers. Mais Jésus-Christ vivait en Galilée, il traversait la Samarie pour aller en Judée où était Jérusalem avec le temple. Donc c'est en revenant un jour en Galilée, entre les deux, villa entre les deux pays, disons, les deux nations, que dans un village, il a été interpellé par des lépreux. En ce temps-là, un lépreux ne pouvait pas être à l'intérieur d'un village. Tous les lépreux étaient chassés, ils étaient à l'extérieur des villages. Je disais aussi que la Samarie, il y avait eu beaucoup de déportations d'Israël dans beaucoup de pays. Et d'ailleurs, la Samarie, ceux qui ont déporté les Israélites ont fait mettre plutôt leurs citoyens en Samarie, ce qui fait que même aujourd'hui, on ne voit pas très bien la limite entre un Israélite et ceux qui sont des peuples alentours. Il y a eu un grand mélange. Mais ceux qui sont à la Samarie étaient considérés comme le reste des 10 tribus d'Israël. Et donc, il n'était pas admis que un lépreux soit admis à l'intérieur d'une communauté. Donc, tous les lépreux vivaient à l'intérieur d'une communauté. Il y avait des murs autour de la ville, donc au-delà des murs. Il n'y avait pas de contact vrai entre les lépreux et ceux qui n'étaient pas, et le reste de la population. Donc, ce sont des lépreux qui se sont retrouvés entre eux aussi pour vivre en communauté. Ils étaient 10. Et qui avaient été, Jésus-Christ passait donc entre la Galilée, où il y avait les Juifs, et quelques autres tribus, et la Samarie qui était vraiment la tribu des Israélites, des autres Israélites. Et il avait été interpellé. L'interpellation était très correcte. Et c'était Jésus, maître. Je voudrais dire que la première chose que nous devons relever ici, c'est que il s'agissait de gens abandonnés par la société. Donc, n'ayant aucun salut, n'ayant aucun espoir, qu'ils seront même reçus par Dieu. Il s'agit aussi de gens qui ne pourraient pas accompagner Jésus-Christ dans ses voyages parce qu'ils étaient des lépreux, mais qui avaient entendu parler de Jésus-Christ et qui savaient que c'était lui le maître. Ils connaissaient son nom, Jésus. Cette affaire se passait dans la période des 3 ans et quelques de travail de Jésus-Christ. Au bout des 3 ans, ils étaient aussi informés. Ce n'est pas aujourd'hui où il y a des médias et autres, mais les gens étaient informés. Ils étaient informés qu'il y avait un Jésus-Christ, un Sauveur qui était né, qui était le maître de toute la nature. Ils l'ont interpellé. Et ils ont fait une demande. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et parfois, je dis que c'est très facile pour nous de prier, d'énumérer nos besoins parce que nous pensons que ce sont nos seuls besoins. Je sais que nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend dans la vie. Et c'est pourquoi il nous demande de lui faire confiance, de le reconnaître comme notre seule lumière, notre seul conseiller, notre salut, celui qui nous assure notre lot. Donc, si nous avons cette foi que c'est lui qui fait tout pour nous, nous nous abandonnons à lui et nous ne suivons que ses conseils, ce qu'il dit. Dis les peuples qui ont demandé la pitié de Jésus-Christ. La première chose, c'est que Jésus leur a demandé d'aller voir les sacrificateurs, d'aller se montrer aux sacrificateurs. Et il fallait connaître Jésus et savoir qui il est pour oser être lépreux et recevoir sa parole pour faire ce qu'il demande. Parce qu'il n'était pas admis que les gens aillent dans le village pour aller se présenter. On les traitait d'impurs. Ils ne pouvaient pas se présenter au sacrificateur. Ils ne pouvaient même pas approcher un homme vulgaire du village. Mais ils ont compris qu'ils ne seront guéris. Ils ont eu leur toutes leurs idées, leur objectif, c'est d'être guéris. Et comme vous et moi, nous n'avons qu'une demande que nous faisons à Dieu sans savoir que Dieu nous veut dans notre totalité. Nous réservons certaines choses pour nous et quand Dieu fait ça, nous disons, Dieu est bon. Et ça s'arrête là. Donc, c'était 9 lépreux qui s'aventuraient, qui faisaient une aventure périlleuse. Ils n'étaient même pas sûrs qu'ils devaient être reçus par les sacrificateurs. Ils pouvaient ne même pas arriver au niveau des sacrificateurs s'ils avaient encore leur lèpre. Mais sur le chemin, ils furent tous guéri en allant vers les sacrificateurs. Vous et moi, nous sommes comme des lépreux. Nous avons des problèmes. Nous avons entendu parler de Jésus-Christ, entendu parler du Maître. Et parfois, nous avons même la meilleure prière, aie pitié de nous, c'est-à-dire tout ce qui demande qu'on nous aide, nous demandons tout simplement, nous nous présentons à Dieu. Mais notre problème, c'est comment nous suivons le chemin, comment nous développons notre processus de salut. Très souvent, nous développons notre processus de guérison de la chair. Et nous ne savons pas que Dieu nous veut dans notre totalité. C'est pourquoi il nous pose des choses. Il nous pose des choses que nous pensons ne pas être, ne pouvoir pas arriver. Et il nous demande des choses très difficiles, demander à un lépreux de rentrer dans un village. Et il lui faut de la force, du caractère pour le faire. Il était déjà rejeté, c'est pourquoi il était hors du village. Le village n'appartient pas à Jésus-Christ, il n'est ni chef de village, ni roi dans cette partie de la terre. Mais il était le maître de l'univers. Et les 10 lépreux lui ont fait confiance, ils sont allés, ils allaient voir les sacrificateurs quand les 10 lépreux furent guéris. Donc, leur problème est résolu. Leur problème est résolu. Très souvent, nous tous, en tant que et adorateurs de Jésus-Christ, nous sommes tournés vers nos problèmes physiques charnels. Nous voulons connaître du Dieu sans lui devoir une reconnaissance. Et nous disons que nous sommes des chrétiens. C'est ce comportement qu'avaient les 10 lépreux. Ils avaient d'abord demandé une pitié, et quand ils furent guéris, ils avaient oublié que la vie ne s'arrête pas seulement à des questions de santé. Ils ne savaient pas que la vie était d'abord d'être reconnaissant quand on a connu Dieu et que Dieu nous parle, nous faisons ce que Dieu nous dit, même si c'est difficile, et après, nous lui sommes même reconnaissants pour ce qu'il nous a dit. Dieu veut faire au-delà de ce que nous nous demandons ou pensons. Mais nous limitons Dieu dans notre vie. Beaucoup de gens, quand je vois l'histoire, je lis l'histoire de beaucoup de riches, très souvent ce n'est pas parce que ces gens ont nécessairement hérité de quelque chose. C'est parce que ces gens sont allés au-delà de la connaissance de Dieu et ils ont eu de la reconnaissance pour Dieu. Et Dieu place beaucoup de gens auprès d'autres personnes ou les place sur le chemin de quelqu'un pour qu'ils soient sauvés par celui-là, qu'ils soient sauvés à travers celui-là. Mais très souvent, nous ne voulons même pas reconnaître la personne ou les personnes qui sont placées sur notre chemin. Et dès que nous trouvons notre compte dans ce processus, nous faisons comme nous voulons. Neuf lépreux sont partis, on ne sait où. Et s'ils étaient allés jusqu'au sacrificateur, personne ne le sait. Mais un lépreux parmi les 10 qui ont été guéris est revenu à Jésus-Christ. Et il était en train de glorifier Dieu à haute voix. Il n'avait pas caché sa connaissance de Dieu. Il n'avait pas caché le bienfait de Dieu. Il était en train de glorifier Dieu à haute voix. Il n'avait pas commencé par se dire pourquoi Jésus-Christ n'aurait-il pas fait ça en même temps et qu'il les a envoyés dans un danger, c'est-à-dire aller voir les sacrificateurs. Mais il a fait foi. Lui, sa confiance était en Jésus-Christ. Il ne pensait pas, peut-être que les autres pensaient que c'était les sacrificateurs qui devaient prier pour eux. Peut-être. Mais quand ils ont été guéris, celui-là est revenu glorifiant Jésus-Christ à haute voix. C'était une seule personne sur 10 qui a reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ. Les neuf autres avaient oublié qu'ils avaient appelé Jésus-Christ Jésus, Maître. Les neuf autres avaient oublié qu'ils avaient dit Jésus, Maître. C'est comme ça que nous nous occupons de nous, c'est comme ça que nous adorons Dieu, c'est comme ça que nous acceptons Dieu. Nous insistons, nous prions, nous l'invoquons. Jésus, Maître, fais-nous ceci, aie pitié de nous. Dès que c'est fini, nous avons oublié. Et tout d'abord, il y a beaucoup, plusieurs qui ne veulent pas prendre le devant pour faire ce que Jésus-Christ a demandé, comme c'est lépreux. On a peur du sacrificateur, on a peur des autres villageois, puisqu'on a été rejeté. Mais ces lépreux, eux, ils ont eu le courage d'aller de l'avant, d'aller voir le sacrificateur et en y allant, en posant ses pieds de foi, ils ont été guéris. Et un seul est revenu en glorifiant Dieu. Il est tombé sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Celui-là, c'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous rentrons ici dans une grande dimension qui est la salle. Luc 17, versets 11 à 19. Le titre dit, l'intitulé, c'est la reconnaissance au Seigneur amène au salut. La reconnaissance au Seigneur amène au salut. Ta foi t'a sauvé. Mes amis, les 10 lépreux avaient foi. C'est pourquoi ils sont allés vers le sacrificateur. Mais ont-ils été sauvés? Il y en a parmi nous qui s'énervent même contre le conseil de Dieu. Il y en a parmi nous qui veulent, qui trouvent que ce que Dieu a dit, non, il doit pouvoir redire ça d'une autre manière. Il y en a parmi nous qui invoquent Dieu et qui reçoivent, mais qui ne sont pas reconnaissants. Il y en a parmi nous, la plupart, qui trouvent que c'est normal de ne pas être reconnaissant, de ne pas remercier. Ta foi t'a sauvé. Mes amis, ta foi t'a sauvé. Est-ce que ceux qui étaient guéris n'étaient pas sauvés? Les 9 autres qui étaient guéris n'étaient-ils pas sauvés? La reconnaissance qui a ramené la personne au Seigneur, qui est revenu. Dieu m'a posé un problème que j'ai trouvé comme étant difficile. J'ai commencé et j'ai trouvé que Dieu a agi parce que j'ai eu foi. J'ai commencé et Dieu a changé ma vie. Et je suis retourné vers Dieu pour le glorifier, pour dire merci. Et j'ai eu maintenant ce que tout le monde cherche à la fin de sa vie, le salut. Quand Dieu m'a dit, en tant que lépreux, d'aller vers le pharisien, les sacrificateurs, je n'étais pas en train les lépreux n'étaient pas en train de se disputer que non, les sacrificateurs sont là depuis, mais pourtant ils avaient leur lèpre. Non, ils n'étaient pas en train de réfléchir. Mais faut-il dire que parce qu'ils ont eu, tout d'abord, il faut qu'ils aient cette foi pour aller de l'avant. De deux, il faut qu'ils ne regrettent jamais leur rencontre avec Jésus, ce que Dieu leur a dit, ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils aient de la joie dans leur démarche. Et il y a une seule personne qui a eu cette joie dans cette démarche, qui s'est dit, c'est avec joie que j'y allais. Ce que je cherche, Dieu m'a donné au-delà de ce que je cherche. Alors, dans ces conditions, je reviens pour le remercier pour ce qu'il a fait. Et c'est seulement en ce moment que Dieu a dit à ce monsieur, ta foi t'a sauvé. Il n'était pas juif, mais il n'était pas celui à qui on a envoyé Jésus-Christ. tu peux te trouver dans une situation où peut-être tu n'étais pas directement lié à celui à qui celui qui te trouvera sur son chemin. Mais Dieu peut passer par celui-là, Jésus-Christ, ou un envoyé de Jésus-Christ, pour que tu sois sauvé. Dieu l'a fait pour beaucoup de gens, comme il a envoyé Paul, qui croyait aller juste remercier Dieu et qui a été mal jugé par ces mêmes sacrificateurs qui voulaient le tuer et qui a commencé un voyage qui l'a amené jusqu'à Rome. Souvenez-vous de son entrée à Malte, ou sur l'île de Malte où il y avait des barbares. Dieu a mis Paul sur le chemin des autres. Ils étaient 267, je crois, personnes en tout dans le navire. Ils étaient dans un port dans lequel il faisait, c'était l'hiver, il faisait froid. Et dans ce port, il n'y avait pas, s'ils restaient là-bas, il n'y avait pas trop de dispositifs pour qu'ils puissent passer l'hiver. Mais Paul leur a dit: là où nous nous trouvons, peut-être que vous trouvez ça mauvais. Ce n'est pas intelligent, selon vous, de rester là-bas. Mais en restant ici, nous aurons notre salut. En choisissant de rester dans ce port, nous éviterons d'être noyés. Que ce qui arrivera sur le chemin sera difficile. Restons ici. Je vois, Dieu me dit que nous devons prendre ce chemin qui n'est pas acceptable pour les hommes, rester dans le froid et le pilote avait plutôt écouté le propriétaire du véhicule. Il s'était écouté lui-même et il a levé l'ancre. À peine ont-ils commencé la route, Paul leur avait dit que ce qui arrivera en chemin, si nous partons, il est possible, ce qui arrivera en chemin, c'est que, et le navire, et nous-mêmes, la cargaison, il y a personne ne pourra être sauvé. Il y a des moments où il faut quelqu'un qui est, que Dieu vous met sur le chemin, qu'il faut écouter. À qui Dieu parle, qu'il faut écouter. Quand ils ont levé l'ancre, la tempête a commencé, au point où ils ont laissé même le navire aller, jusqu'à ce que le navire se détruise complètement. Ils sont rentrés sur l'île de Malte. C'est en chemin que Paul leur a dit que Dieu, un ange du Dieu qu'il sert, lui a dit cette nuit que le reste du voyage sera difficile, que le navire se détruira, mais que les hommes seront sauvés. Malgré ça, il y avait des matelots qui voulaient fuir le navire. Mais Dieu a mis sur le chemin de ces 267 personnes un centenier qui aimait Paul. Un centenier qui aimait Paul. À qui Paul a pu se dire, celui qui était le soldat qui le conduisait vers Rome, Paul lui a dit: si ces gens-là sortent du navire, il n'y aura pas de vie pour les autres. Et on a fait couper les chaloupes, les cordes qui étaient attachées aux chaloupes. Et les chaloupes sont parties. Donc, il n'y a pas Tout le monde est condamné de rester dans le navire. Mais entre-temps, vu comment les choses se développaient, les soldats ont voulu tuer ceux qui étaient des prisonniers pour qu'ils ne se sauvent pas. Quelle décision? Toi-même, tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Qui se sauve ou qu'il meurt dans le navire? Qu'est-ce que tu as gagné? Et le centenier, Dieu a mis le centenier sur la voie de Paul. Le centenier aimait Paul, puisque les soldats ne feraient pas de différence entre les prisonniers. Le centenier a refusé qu'on tue les prisonniers pour sauver Paul. Mes amis, quand nous nous adressons à Dieu, faisons attention. Et c'est ainsi que tout le monde a été sauvé. Parfois, nous pensons que nous sommes suffisants. Mais Paul est rentré dans une île. Ils sont allés sur une île de barbares. On dit qu'ils sont là-bas, il y avait des barbares, mais qui les ont bien reçus. Au point où Paul a pu prêcher la parole là-bas. Mais quand ils étaient à Rome, et que les Israélites, les Juifs qui étaient à Rome, avaient posé la question à Paul, de savoir ce qui l'a amené, et que Paul a expliqué comment il était en problème avec les autres, Paul n'a jamais reçu, Paul a prêché la parole, mais une bonne partie des Israélites n'avaient pas reçu la parole de Dieu. Alors que les barbares ne connaissaient pas Jésus-Christ, ils l'ont reçu. Ici, ceux pour qui Jésus-Christ était envoyé ne l'ont pas reçu. Et Paul leur a dit, c'est pourquoi Ésaïe dit, vous aurez des oreilles, mais vous n'écouterez pas. Des yeux, mais vous ne verrez pas. Et ils se sont énervés, ils se disputaient à Rome. Je vais m'arrêter là. Est-ce que tu as eu la foi? Oui. Est-ce que tu as vu les choses comme tu devais les voir? Commencer ce que Dieu te demande, tu l'as fait? Est-ce que tu as été content de ce que Dieu t'a demandé, malgré le fait que depuis des siècles, c'est retenu en Israël qu'un des lépreux ne devait pas rentrer dans un village et, pire encore, ne devait pas voir un sacrificateur. Est-ce que tu es revenu alors à Dieu pour lui dire, ah, quand tu m'as posé un problème difficile, que chacun pense qu'on ne doit pas faire, qui n'était pas acceptable et que j'ai posé mon premier pas, j'ai vu que Dieu est très bon. Dieu est très bon, je viens remercier. Peux-tu avoir cette façon de voir Dieu pour avoir maintenant le salut? Nous attendons le retour de Jésus-Christ. C'est très bien. Nous pensons qu'il y aura du temps. Parfois, nous pensons pas, nous pensons qu'il n'y aura pas de temps. Alors que Abraham avait eu tout son temps. Parfois, nous sommes jeunes et nous pensons qu'il y aura du temps. Donc, on peut faire comme on veut. C'est ce qui est arrivé à Saül. Il n'a pas obéi. Quand il n'a pas obéi, Dieu lui a enlevé la royauté. Mais ce que Saül ne savait pas, c'est que cette royauté qui a été enlevée à toute une tribu qui a fait des Benjamites. Même si après, il se mettait avec Judas en Judée. Oh, Dieu, C'est toute une progéniture, c'est toute une famille, c'est toute une lignée, c'est tout un peuple que Dieu veut sauver en voulant passer par toi. Mais dans tout ce qui se passe, il apparaît comme ce sont des gens, les étrangers, comme ceux de, comme les barbares de Malte, comme ce Samaritain étranger qui pose les bons actes de Dieu, comme Dieu le demande, et qui sont reconnaissants envers Dieu. Que Dieu nous aide à être plutôt le seul lépreux qui vient lui dire merci après avoir posé les actes de foi. Et que nous ne remettions pas à la coutume, à comment les gens pensent, les gens voient les choses pour rater notre salut. Que Dieu soit avec nous. Amen.